Vous écoutez, on lit pour vous.
6 milliards de litres d'eau pour exploiter les énergies fossiles en Colombie-Britannique. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 30 juillet 2024 dans Le Devoir. L'industrie pétrolière et gazière en Colombie-Britannique a utilisé l'an dernier plus de 6 milliards de litres d'eau douce, en bonne partie pour les opérations de fracturation nécessaires à l'exploitation gazière. Des écologistes dénoncent d'ailleurs la consommation croissante d'eau par des entreprises accusées d'alimenter une crise climatique qui provoque des sécheresses, notamment dans la province. Selon les données officielles de BC Energy Regulator, BCER, qui réglemente l'exploitation des ressources énergétiques en Colombie-Britannique, le secteur pétrolier et gazier a pompé un peu plus de 6 milliards de litres d'eau en 2023, principalement dans le nord-est du territoire, où on retrouve la majorité des sites d'exploitation gazière. Comme ce gaz est exploité essentiellement dans des réservoirs étanches, les entreprises doivent recourir à la fracturation hydraulique, une technique similaire à celle utilisée pour le gaz de schiste. Chaque forage nécessite ainsi plusieurs millions de litres d'eau auxquels on ajoute divers produits chimiques dont certains sont toxiques pour l'environnement. Le BCER précise dans son rapport sur les prélèvements annuels d'eau, publié récemment, que des aquifères et plusieurs rivières sont utilisées comme source d'approvisionnement pour les opérations de l'industrie des énergies fossiles. L'entreprise ARC Resources, qui exploite du gaz par fracturation, a ainsi pompé l'an dernier près de 150 millions de litres d'eau dans la rivière Kiskatina, dont le cours traverse un parc provincial. 16 milliards. C'est le nombre de litres d'eau qui pourrait être consommé par année, selon la Fondation David Suzuki. Le gaz exploité par cette entreprise servira notamment à alimenter l'usine flottante de liquéfaction de Cedar LNG, conçue pour l'exportation de gaz naturel liquéfié, GNL, par navire méthanier vers le marché Asie-Pacifique. La Société d'État Exportation et Développement Canada a accordé un financement de 400 à 500 millions de dollars à ce projet, dont la construction a été saluée par le premier ministre Justin Trudeau. Le projet a été approuvé en 2023 par le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault. LNG Canada, un autre projet soutenu par le gouvernement Trudeau, a pompé un peu plus de 80 millions de litres d'eau dans la rivière Kitimat, mais le projet est autorisé à prélever annuellement près de 1,5 milliard de litres. Petronas Energy Canada, filiale de la multinationale malaisienne Petronas, a quant à elle pompé près de 130 millions de litres d'eau en 2023 pour ses opérations. Eau et sécheresse. L'organisation écologiste Stand Heart dénonce la consommation croissante d'eau douce par l'industrie pétrolière et gazière en Colombie-Britannique, rappelant que les 6 milliards de litres pompés en 2023 représentait une hausse de 800 millions de litres par rapport à l'année précédente. La croissance est d'ailleurs constante depuis quelques années, puisque l'industrie avait pompé un peu plus de 2 milliards de litres en 2018, selon les données officielles de la province. À ce rythme, et en tenant compte de la hausse prévue de la production gazière par fracturation, la Fondation David Suzuki estime que la consommation annuelle d'eau pourrait avoisiner les 16 milliards de litres d'ici 2050. La hausse de la consommation d'eau par l'industrie ne montre aucun signe de ralentissement, déplore Sven Biggs, spécialiste des enjeux du secteur pétrolier et gazier pour Stand Heart. L'organisme réclame donc la mise en place d'une réglementation qui obligerait l'industrie à réduire le pompage dans les rivières et les aquifères de la Colombie-Britannique, mais aussi à traiter toutes les eaux utilisées pour fracturer les formations géologiques qui renferment du gaz naturel. Stand Heart rappelle du même souffle que la province fait face à des sécheresses qui seraient liées aux impacts de la crise climatique alimentée par notre dépendance aux énergies fossiles. Le gouvernement provincial a d'ailleurs lancé en juin 2024 une campagne de sensibilisation destinée aux citoyens afin de les inciter à réduire leur consommation d'eau, notamment en réduisant l'arrosage, en fermant le robinet lors du brossage des dents et en optant pour des appareils électroménagers qui permettent de consommer moins d'eau. C'était 6 milliards de litres d'eau pour exploiter les énergies fossiles en Colombie-Britannique, un texte d'Alexandre Shields paru le 30 juillet 2024 dans Le Devoir.
Théodore Pellerin, devenir Jacques de Bachère, ce dandy proche de Karl Lagerfeld. Une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 22 juin 2024 dans le magazine Fugue. Fidèle à son habitude, l'acteur Théodore Pellerin brille outre-mer, alors qu'il incarne cette fois Jacques de Bachère, un dandy français qui entretient une relation à la fois forte et ambiguë avec l'icône de la mode Karl Lagerfeld dans la série française Becoming Karl Lagerfeld, disponible sur Disney+. En fait, la série aurait aussi pu s'appeler Becoming Jacques de Bachère, tant le personnage incarne un rôle important dans la série, mais aussi dans la vie du célèbre créateur qui a travaillé pour Chloé, Fendi et Chanel. Comment t'es-tu préparé pour interpréter le personnage de Jacques? Il y avait tellement de ressources, il y avait tellement de choses à lire. Il fallait comprendre l'univers, comprendre le monde de la mode, les mécanismes de pouvoir qui sont en jeu. Jacques, c'est quelqu'un qui a existé, mais ce n'est pas une icône qui fait partie de la culture populaire et que tout le monde connaît la voix, les manières. Il y avait une espèce de liberté à ne pas avoir à calquer une idée connue de tous. En même temps, il y a les ressources disponibles sur comment il vivait sa vie, qu'est-ce qu'il lisait, qu'est-ce qu'il écoutait comme musique. Jacques, c'était un grand lecteur. Pour moi, la recherche la plus intéressante, c'était de lire les livres qu'il lisait, lui, et de comprendre ce dans quoi il se projetait et quel personnage le fascinait. C'était quand même un érudit, et c'était quelqu'un qui voulait écrire. C'était aussi quelqu'un qui, dans son incapacité à écrire et à créer, faisait de lui-même un personnage. Par exemple, dans les œuvres de Thomas Mann, c'est beaucoup des intellectuels qui passent leur vie à être enfermés et à lire, et qui finissent par rencontrer la jeunesse et la beauté, et à être en émoi en se disant que là est la grâce. Jacques, c'était un être de la nuit. C'était un être de fête, de sexe et d'excès. Mais ce n'était pas par dépit ou par addiction, c'était une philosophie de vie qu'il avait. Il y a ces choses-là qui me permettent de comprendre ça sur lui. J'ai aussi parlé à des gens qui l'ont connu un peu. Ça, c'était un cadeau énorme. En quelque sorte, t'es-tu retrouvé dans ce personnage? Toujours. Je pense que c'est ça le but de jouer. Et c'est à ça que la recherche sert. Créer assez de liens avec le personnage pour que la chose soit tangible et que quand tu arrives sur le tournage, tu te sentes vivant. Après ça, les liens sont souvent flous, ne sont souvent pas si clairs. Je ne pourrais pas dire, je me suis vraiment retrouvé dans cet aspect-là de lui. Et ce n'est même pas nécessairement des liens avec ma vie, c'est plutôt, est-ce qu'il y a quelque chose qui me touche? Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne? Je ne pense pas que l'idée c'est de dire, moi j'ai vécu ça ou moi je pense ça. As-tu fait face à des défis pour interpréter Jacques de Bachère? Il y en avait plusieurs. Un des aspects qui me faisait un peu peur, c'était ce grand confort-là en société que Jacques avait et ce plaisir-là qu'il avait à être vu et à être regardé et cette confiance-là qu'il allait être vu. Je me disais, comment je peux faire pour me sentir comme ça? J'ai des moments, des soirées où je me trouve cute, mais lui, j'ai l'impression qu'il avait constamment cet état-là qui émanait de lui. C'est là que les costumes entrent vraiment en jeu et que la création physique du personnage vient créer quelque chose que tu ne peux pas vraiment avoir naturellement. ça donne tellement une autre image de soi, un autre rapport de ce que tu représentes dans l'espace, ces costumes-là, que ça m'a donné ce qu'il fallait. Alors que dans la vie, c'est pas du tout quelque chose qui m'appartient, cette confiance-là, cette force de caractère, ce genre de narcissisme un peu débordant. Et devoir faire l'accent français, j'avoue que ce n'est pas quelque chose auquel je pensais tant que ça. Faire des accents en anglais, c'est plus de travail. Mais en français, ça va. Ça faisait déjà 7 mois que j'étais à Paris parce que je tournais Franklin, où je jouais le marquis de Lafayette. Donc, il y avait déjà un moment où j'étais bien entouré. Jacques de Bachère était assez ouvertement homosexuel, mais n'est jamais devenu l'auteur qu'il a souhaité être. Penses-tu que l'homosexualité de Jacques de Bachère l'a bloqué dans son cheminement professionnel? Je ne pense pas. Je pense qu'il avait un inconfort face au jugement de son père. Sa grande sœur, Anne, était homosexuelle. Je ne sais pas comment les gens faisaient pour être aussi affirmés à cette époque-là, alors que c'était tellement homophobe et même illégal. Mais je pense que ça faisait même partie du charme que l'homosexualité avait pour lui. Je pense que c'était totalement un provocateur et quelqu'un qui voulait être remarqué. Je ne pense pas que c'était quelque chose qui jouait tant que ça dans la honte, ou sinon de manière très souterraine. Quand il était dans la marine, il jouait à des jeux qui étaient de coucher avec le plus d'hétérosexuels possible. Il réussissait. Il y avait une initiation à la marine où tous les gars devaient se mettre nus et faire toutes sortes de choses. Je pense que ça peut être traumatique pour beaucoup, mais pour lui, c'était absolument génial. Il y a plein d'histoires de lui qui se fait arrêter par la police, et finalement, il réussit à ramener le policier chez lui. C'était quelqu'un de complètement anormal. Il avait un pouvoir d'attraction surdimensionné. Il y avait peut-être d'autres choses qu'il voulait cacher. Il aurait préféré être de la noblesse plus haute. Travailler sur une série sur le monde de la mode t'a-t-il attiré ou répugné de cet univers? Je trouve que c'est un monde qui est très très dur. Je pense que je peux être attiré par les belles créations, les beaux vêtements, mais je ne pense pas être attiré par l'industrie de la mode. Je pense que je serais très malheureux d'essayer d'être là-dedans. Je préfère être chez moi et lire des livres. J'admire quand même les artistes qui touchent à leur époque, qui la voient, qui la racontent en vêtements. Il y a des photographies de mode que je trouve géniales et qui racontent des histoires intéressantes. Mais je ne serais pas capable de survivre. C'était Théodore Pellerin. Devenir Jacques de Bachère, ce dandy proche de Karl Lagerfeld. Une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 22 juin 2024 dans le magazine Fugue.
Les surprises de la H5N1 bovine. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 14 juillet 2024 dans La Presse. Depuis l'hiver 2023, la grippe aviaire H5N1 se répand dans les troupeaux de vaches américains. Alarmant plusieurs épidémiologistes, ce développement pourrait mener à une autre pandémie humaine. Les biologistes font des pieds et des mains pour cerner l'ampleur du danger. Les glandes mammaires. Peu après la pandémie de 2009 de H1N1, Allison Kelvin a été frappée de voir que les femmes enceintes et leurs bébés étaient 2 fois plus susceptibles d'avoir des versions graves de l'infection. La biologiste de l'Université de la Saskatchewan a découvert que le virus s'accumulait dans les glandes mammaires du furet, un animal de laboratoire souvent utilisé pour étudier les infections respiratoires humaines. Ces résultats ont été publiés en 2015 dans la revue PLOS Pathogens. La prochaine étape était de voir si le virus pouvait être transmis par le lait ou si un virus qui infectait les glandes mammaires plutôt que les voies respiratoires pouvaient acquérir la capacité d'infecter ces dernières, dit Mme Kelvin. Mais à l'époque, il n'y avait pas de financement pour l'étude de l'influenza dans les glandes mammaires. Il y avait très peu d'études sur le sujet. Ce domaine de recherche est soudainement devenu plus intéressant avec la H5N1 bovine parce que le virus est concentré dans les glandes mammaires et serait transmis par le lait d'une vache à l'autre. Mme Kelvin, qui a depuis concentré son travail sur les vaccins, ne pense pas profiter de cette manne pour reprendre ses recherches sur l'influenza dans les glandes mammaires. Le précédent canadien des années 1950. Le Canada était, jusqu'à cette année, un haut lieu de la recherche sur l'influenza dans les glandes mammaires. Durant ses travaux sur le furet, Mme Kelvin a trouvé trois études d'Agriculture Canada réalisées dans les années 1950 sur l'influenza dans les glandes mammaires bovines. L'objectif était alors de produire un vaccin antigrippal dans le lait de vache, dit-elle. Comme ça ne s'est pas révélé mieux que la culture du vaccin dans les œufs, cette avenue de recherche a été abandonnée. Les recherches des années 1950 avaient été faites dans une ferme expérimentale fédérale près de Hull. Vaccins humains et animaux. Au début de juillet, les États-Unis ont annoncé l'attribution d'un contrat à la société Moderna pour la conception d'un vaccin à ARN messager, ARNM, pour la grippe H5N1. Les vaccins ARNM ont été au premier rang de la lutte contre la COVID-19. Et cela suit l'annonce, à la fin de mai 2024, de l'achat de 4,8 millions de doses d'un vaccin traditionnel contre la H5N1 au cas où la H5N1 bovine commencerait à se transmettre aux humains de manière plus importante. Au Canada, qui n'a pas de cas de H5N1 chez ses vaches pour le moment, l'Agence de la santé publique du Canada a entamé des discussions avec des sociétés pharmaceutiques pour qu'un achat soit fait rapidement en cas de besoin. La Finlande est, quant à elle, le pays le plus proactif, ayant annoncé en juin 2024 la vaccination de 10 000 travailleurs des fermes de visons et de renards. En 2023, des éclosions de grippe aviaire dans ces fermes de fourrure avaient forcé l'abattage de 485 000 animaux dans le pays nordique. Ces 10 000 doses font partie d'un achat de 40 millions de doses de vaccins contre la H5N1 par l'Union européenne. La vaccination des poulets et des bovins est aussi envisagée, mais bloquée par la difficulté à déterminer si un animal est infecté. L'Europe est en avance sur cette réflexion, selon Andrew Van Kessel, directeur de la recherche à l'Organisation sur la vaccination et les maladies infectieuses, VIDO, de l'Université de la Saskatchewan. VIDO est l'un des seuls laboratoires biosécuritaires au monde à pouvoir étudier les grands animaux et fera sous peu des tests d'inoculation de la H5N1 aviaire à des veaux. La distinction entre un animal vacciné ou infecté est cruciale pour l'exportation. Certains pays vaccinent leurs poulets contre la grippe H5N1 quand ils n'exportent pas leur viande ou leurs œufs. C'est le cas au Mexique, selon Jean-Pierre Vaillancourt de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Évolution. Le 8 juillet 2024, dans la revue PNAS, des biologistes de l'Université du Wisconsin ont montré que, par rapport à la grippe aviaire H5N1, celle qui est présente dans les vaches américaines a plus d'affinité avec des cellules respiratoires humaines. Est-ce inquiétant? Il n'y a pas d'évidence que ce virus soit capable d'être transmis aisément via aérosol entre furets, explique le docteur Vaillancourt. On voit que la contamination peut être orale et possiblement respiratoire, sous condition de laboratoire. Autrement dit, ils ont démontré que c'est techniquement possible en forçant des doses importantes en milieu contrôlé. Ça ne veut pas dire que la transmission au niveau respiratoire soit possible en milieu naturel. Le docteur Vaillancourt note que depuis l'apparition de cette grippe aviaire H5N1 dans les élevages de poulets en Asie, des centaines de milliers de personnes ont été en contact avec des oiseaux infectés. Nous n'avons toujours pas observé une transmission interhumaine, mais cette étude indique qu'il faut être vigilant, car bien que la probabilité soit faible que ça devienne réalité, le risque n'est pas négligeable. En savoir plus. Source : le Département de l'Agriculture des États-Unis, USDA. 140. Nombre de troupeaux de vaches infectées par la H5N1 aux États-Unis depuis mars 2024. 55. Nombre de troupeaux de vaches infectées par la H5N1 aux États-Unis depuis le début de juin 2024. 4. Nombre de cas humains liés à la H5N1 bovine aux États-Unis. C'était les surprises de la H5N1 bovine. Un texte de Mathieu Perrault paru le 14 juillet 2024 dans La Presse.
Chaque minute compte, un texte de Nicolas Bérubé, paru le 6 août 2024 dans La Presse. Le déclenchement d'une alerte Amber provoque parfois des critiques chez des personnes mécontentes de se faire déranger même la nuit. Les groupes d'aide aux victimes et les policiers soulignent que le service est essentiel pour retrouver des enfants en danger. Ce qu'il faut savoir. Une alerte Amber a été déclenchée par le service de police de la ville de Montréal dans la nuit de lundi à mardi. Deux enfants enlevés par leur mère à Montréal ont été retrouvés sains et saufs aux États-Unis. Les corps policiers ne dévoilent pas toujours l'ensemble des informations dont ils disposent, mais ils envoient ces alertes en se basant sur une pléthore de facteurs. Retrouvés aux États-Unis. Une alerte Amber a été lancée peu avant minuit, dans la nuit de lundi à mardi, du 5 au 6 août 2024, au sujet de deux enfants qui avaient été enlevés par leur mère à Montréal, aux environs de 16h35. Le trio a été retrouvé en bonne santé peu après minuit par des policiers aux États-Unis. La rapidité en jeu. Selon Mélanie Aubu, porte-parole du réseau Enfants Retour, l'alerte Amber est un outil essentiel. Parfois, ça peut être dérangeant d'entendre sonner son téléphone portable. Mais plus il y a de gens au courant de l'enlèvement, et plus ils sont au courant rapidement, plus ça aide les policiers. Chaque minute compte. Dans le cas de l'alerte de ce lundi, les informations précisaient que la mère circulait à pied ou en transport en commun. Mais un train ou un autobus, ça va vite et ça couvre de bonnes distances. Ce n'est pas parce que tu es à pied que tu vas rester à pied. Et on l'a vu dans ce cas-ci. Adapté à l'enquête. Le commandant Simon-Luc Tanguay du service de police de la ville de Montréal, SPVM, signale que l'alerte Amber est utilisée de façon différente selon la nature de l'enquête. On détermine le rayon où le message va être envoyé. On n'envoie pas ça toujours à travers le Canada ou à travers le Québec. La distance est évaluée par l'équipe d'enquête. Il note que les enquêteurs préfèrent en mettre un peu plus qu'un peu moins. Pour prendre un exemple fictif, si on sait que la personne a pris un autobus, il y a une heure, on peut estimer qu'ils font un rayon de, disons, 200 km. Alors on va mettre 300 km pour que ça soit valide dans une heure encore. Éléments non dévoilés. Par ailleurs, certains éléments d'enquête ne sont pas dévoilés au public par les policiers. Il y a des choses qu'on sait, mais qu'on ne peut pas dire. Donc les gens sont parfois surpris. Si on a des informations voulant que le suspect ait de la famille dans telle ou telle région, on va peut-être vouloir alerter cette région-là, même si les gens ne vont pas nécessairement comprendre pourquoi on le fait. Rien n'est assuré. L'utilisation d'outils aussi perfectionnés que l'alerte Amber ne signifie pas non plus que les enfants seront retrouvés ou qu'ils sont en bonne santé, note Mélanie Aubut. Le réseau Enfants Retour soutient des familles dont l'enfant est disparu et a fait l'objet d'alerte Amber. Certains ont été retrouvés, mais d'autres l'ont été dans des conditions qu'on n'espérait pas. Ils n'étaient pas sains et saufs. S'il y a des outils qui peuvent aider, on est heureux que les policiers les utilisent, dit-elle. Trois critères de l'alerte Amber. Au Québec, deux corps de police sont autorisés à déclencher une alerte Amber. Le service de police de la ville de Montréal, SPVM, et la Sûreté du Québec, SQ. Pour qu'ils le fassent, trois critères doivent obligatoirement être présents de façon simultanée. 1. Le service de police a des motifs raisonnables de croire qu'un enfant, une personne de moins de 18 ans, a été victime d'un enlèvement. 2. Les circonstances entourant l'enlèvement indiquent que l'enfant risque de subir des lésions corporelles graves ou qu'il est en danger de mort. 3. Le service de police possède suffisamment de renseignements descriptifs sur l'un ou plusieurs des éléments suivants, l'enfant, le suspect, le moyen de transport utilisé, ce qui permet de croire que la diffusion immédiate de l'alerte aidera à retrouver l'enfant. C'était « Chaque minute compte », un texte de Nicolas Bérubé, paru le 6 août 2024 dans la presse.